Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs qui veulent développer leur business, leur mindset et passer à l'action. Aujourd'hui, avec mon invité du jour, on va répondre à la question que tout entrepreneur se pose ou s'est posée à un moment donné. C'est comment on fait pour trouver sa patte et pour se différencier face à la concurrence. Ça, c'est une question cruciale qui revient à chaque fois. Et pour y répondre, j'ai convié Céline Hamelin de Studio Pouce. Elle est brand designer. Et ensemble, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir les possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir justement trouver notre patte et nous différencier. Donc on parle de branding, on parle de stratégie de marque, mais pas seulement. Dans l'épisode, tu verras, on a beaucoup de mindset et surtout, on t'a préparé du concret pour que dès la fin de l'épisode, tu puisses mettre en place des choses toi aussi dans ton activité. Et c'est pour ça qu'avec Céline, on t'a concocté un carnet d'exercices en lien avec l'épisode que tu peux télécharger gratuitement. Le lien est en note de l'épisode. Ce sont des exercices dont Céline parle dans La Pépite du jour et qui vont t'aider à trouver ta propre voie, à travailler sur ta marque, ton ton, ton branding, à savoir vraiment ce que tu veux faire et comment tu peux l'exprimer. Donc c'est très précieux, tu retrouves ce carnet donc en note de l'épisode, je te le disais, c'est un template Notion. N'hésite pas à le télécharger, à le dupliquer sur ton espace pour pouvoir y travailler et y revenir par la suite. C'est vraiment très précieux et ça complète l'épisode du jour. Sans plus tarder, on va retrouver avec un très grand plaisir Céline. Cet épisode est full valeur, je suis sûre qu'il va te plaire. D'ailleurs, s'il te plaît, vraiment viens nous taguer sur Instagram. Donc moi, c'est lesintuitives.fr. Céline, c'est Studio Pouce, pour nous dire ce que tu en as pensé, pour nous dire comment il t'a aidé. Et n'hésite pas à nous laisser un commentaire aussi sur le podcast, à nous laisser un avis, ça aide beaucoup La Pépite à se faire connaître et nous, on sait aussi comment on a pu t'aider dans ces cas-là. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler, les amis, de comment trouver son style, comment trouver sa patte pour se différencier de nos concurrents. Vaste sujet. Et pour ça, notre invitée, c'est Céline de Studio Pouce. Bonjour Céline, bienvenue sur La Pépite.
Salut Cécile, ravie de faire cet épisode avec toi.
Ah ben, je suis tellement contente de t'accueillir sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on en parlait, en plus, que tu devais venir. Et puis voilà, les dates, les machins, nos plannings de président.
La rentrée.
La rentrée, tout ça, la nouvelle année. Enfin bon, voilà. Et je trouve que c'est super qu'on puisse le faire aussi là, au mois de février, cet épisode, parce que on est en plein dans cette thématique du printemps, de la renaissance, où il y a peut-être des personnes là qui nous écoutent, qui ont envie de tout remettre à plat dans leur identité visuelle, identité de marque, pour trouver leur patte, pour refaire une passe et tout. Et on va, alors je vais te laisser te présenter, mais on va quand même le dire à nos auditeurs. Toi, t'es brand designer, t'es graphiste, mais tu vas nous dire la différence entre graphiste et brand designer, parce que c'est pas tout à fait pareil. Et tu vas pouvoir nous aiguiller justement sur tout ce travail de trouver sa patte pour se différencier. Et c'est quoi brand designer, Céline? C'est quoi ton métier?
Alors, moi, j'ai fait des études de graphisme, j'ai fait des études de marketing, de communication, et ça a été également le secteur d'activité dans lequel j'ai travaillé en premier lieu en tant que salarié. Donc, j'ai été successivement web designer, graphiste, chargé de communication. Donc, j'ai pu voir un petit peu comment s'articuler tous ces métiers et créer un petit peu le mien sur mesure une fois que je me suis mise à mon compte il y a 5 ans maintenant. Et mon objectif, c'était d'aider les entrepreneurs à identifier leurs forces, leurs faiblesses, ce qu'ils voulaient vraiment faire de leur entreprise, leur grand pourquoi, leur vision, et de faire tout ce travail de stratégie, en fait, en amont de recherche, de personnaliser, vraiment de construire une activité sur mesure et une identité visuelle sur mesure. Donc, en fait, le branding, ça inclut toute la partie stratégique d'introspection de soi-même et de son entreprise pour pouvoir ensuite mener un travail de création d'identité visuelle et de site internet et de support de communication qui sont totalement sur mesure et en accord avec les valeurs et la personnalité des entrepreneurs.
Toi, tu prends en charge en fait toute l'identité de la marque, que ce soit une marque personnelle ou une marque de société, hein. Et t'es pas juste là pour créer un logo, c'est tout l'univers, c'est comme tu disais, il y a de la stratégie.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, une identité visuelle juste jolie, un logo pour avoir un logo, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. C'est pas ça qui aide vraiment à se démarquer ou même à savoir comment communiquer. Une fois qu'on a un joli logo, on sait pas forcément composer des visuels, comment choisir les bonnes couleurs derrière, comment bien les utiliser et vraiment comment elles s'imbriquent dans un parcours de marque avec l'entreprise, les concurrents, les clients. Et du coup, c'est un peu compliqué de savoir quoi faire d'un joli logo, même s'il est joli.
Bah, c'est de ça dont on va parler justement, et c'est pour ça que c'est super chouette que tu sois avec nous. Donc, je rappelle le nom de ton studio, c'est Studio Pouce, mais alors vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'épisode, et puis on aura l'occasion de revenir aussi vers la fin de l'épisode à ce que tu. Enfin là, tu nous as déjà présenté ce que tu fais, mais on pourra revenir en fin d'épisode sur la façon que tu as d'accompagner tes clients et tes clientes. Parce que. Chez les intuitives, tu sais, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est quelque chose qui revient très souvent dans ma communauté, c'est que déjà le mot stratégie, ça fait peur, on n'aime pas trop, on est intuitive, alors la stratégie, bof bof, tu vois, et puis on y va un peu au feeling. Bon, alors il faut s'écouter, hein, il faut faire parler aussi ce qui nous anime, mais voilà, on disait en début, là, quand on a fait les présentations, ça veut dire quoi pour toi trouver sa patte, tu vois, pour se différencier?
Oui. Alors, la stratégie, déjà, c'est pas un gros mot.
Allez,
C'est
faut le dire.
hyper important. Surtout quand, justement, on fait beaucoup de choses à l'intuition, en s'écoutant, c'est d'autant plus important d'avoir une stratégie en place pour s'économiser et pour faire quelque chose qui nous ressemble. C'est pas parce qu'on est stratégique qu'on n'est pas dans son intuition ou qu'on fait pas quelque chose qui nous ressemble. On est intentionnel, en fait, quand on est stratégique. Donc, on part forcément de soi. Mine de rien, quand on fait de la stratégie, et ça évite de partir dans tous les sens et d'écouter les autres. Donc, c'est important d'avoir sa patte, et avoir sa patte, c'est d'abord se connaître, en fait. D'abord, d'être identifié, bah, tout ce qui part de vous. Ça peut être des passions, ça peut être des hobbies, des traits de personnalité, des valeurs personnelles fortes, importantes, les croyances aussi, c'est hyper important, c'est ce qui compose un peu notre monde au final. On crée notre monde en fonction de nos croyances, donc c'est très important. Ça peut être une méthode, une touche particulière, un process particulier, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va être aussi des émotions que vous voulez transmettre, ça j'en parle beaucoup parce que c'est hyper important en matière de branding. Selon les émotions que vous voulez véhiculer, si vous voulez apporter de la douceur, du réconfort à vos clients, si jamais vous voulez apporter du peps, de la visibilité, si vous voulez les motiver, si vous voulez voilà, choisir les bonnes émotions pour les transmettre et emporter les gens avec vous. Et aussi travailler le pourquoi de son entreprise, c'est très très important. Ça va être un petit peu le cœur, le départ aussi, qui va permettre aux gens de s'identifier à l'entreprise et à l'entrepreneur.
Ouais, c'est tellement précieux ce que tu partages déjà là, comme ça. J'espère que ça vous aide, vous qui nous écoutez, à y voir un peu plus clair. Et donc ça, c'est pour trouver sa patte. Donc déjà, tu nous as donné des astuces. Après, on y reviendra, hein. On relistera ce qu'on peut faire. Et puis, on disait dans la présentation aussi trouver sa patte pour se différencier de la concurrence. Alors là, c'est un vaste sujet, hein. On s'est dit qu'on allait cadrer quand même le truc pour pas faire un épisode sur la concurrence, mais moi je voulais quand même te demander, Céline, pour toi, c'est quoi la concurrence et enfin, comment tu vois ça, toi, quand tu travailles avec tes clients?
Alors moi, ça a été un peu compliqué. Alors peut-être que tu as des auditeurs, auditrices qui vont se reconnaître dans voilà, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, problématiques liées à la confiance en soi, dont moi j'ai beaucoup souffert au début. Et clairement, je voyais la concurrence comme un défi insurmontable, comme quelque chose auquel je me comparais et ce que je faisais n'était jamais assez bien. Ça a été très compliqué en fait de sortir de schéma. On parlait de croyances tout à l'heure, mais au final, c'est quelque chose qui en fait partie de croire que parce qu'il y a des personnes qui font mieux, ce qu'on fait n'est pas bien. Donc, c'est important de s'en éloigner pour revenir un peu à soi et comprendre que c'est pas parce qu'on a des concurrents que ce qu'on fait est moins bien, c'est pas parce qu'on n'est pas le ou la meilleure que on n'a pas notre place aussi. Tout le monde peut trouver une place et les concurrents ne sont pas à diaboliser, on va dire.
Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que pour toi, elle ne doit pas nous bloquer cette concurrence. Ça doit être un
Surtout pas. Il
moteur.
faut avoir un rapport très sain avec la concurrence Et alors moi, je conseille de s'entourer de concurrents qui nous inspirent, qui nous poussent à nous améliorer, à nous rendre meilleurs. Mais si jamais on ne se sent pas dans cette dynamique-là, si en consommant du contenu concurrent, on se dénigre, on se rabaisse, on se sent moins bien, moi, j'aurais tendance à conseiller de ne pas suivre ces personnes, d'essayer voilà, de s'en détacher un petit peu. Ça ne veut pas dire que leur contenu n'est pas bien, mais ça veut dire qu'il n'est peut-être pas forcément bien pour nous à cet instant T. Donc, de prendre du recul, de s'éloigner de ce qui ne nous fait pas du bien, de travailler son estime de soi, son affirmation de soi, sa confiance en soi. Et une fois qu'on est un peu plus prêt, de réintroduire un petit peu plus de contenu concurrent dont on va pouvoir s'inspirer et qui vont nous pousser vers le haut au lieu de nous rabaisser.
C'est très mindset, hein, ce que tu nous dis comme conseil. Finalement, là, on ne parle pas de branding, on est très très mindset déjà.
Ça fait partie du gros travail en amont. Et
Ouais.
puis, bah voilà, pour avoir traversé aussi ce genre de problématique, c'est hyper important de se sortir de ça.
Et comme tu disais, ça part de nous aussi, enfin, ça part de soi. Donc déjà, si on
Ouais.
ne fait pas ce travail-là, mais tu sais, j'ai remarqué que ça c'est valable pour les solopreneurs, mais aussi pour les gens qui ont des TPE, des PME. Quand ils doivent travailler le branding de leur société, même s'ils ont 30 salariés, parce que moi une des dernières, enfin, quand j'ai fait un petit passage en salariat il y a quelques années de ça, j'étais dans une boîte où on était une trentaine, donc ça reste encore à petite échelle, mais tu sais, les dirigeants, pareil, il y avait un moment, on avait eu à refaire toute la charte graphique, mais voilà, tout le branding, identité de marque, les valeurs et tout ça, et ça partait aussi, tu vois, des dirigeants. Donc même que tu sois tout seul dans ta boîte ou que tu aies 30 ou 50 personnes, bah, comme tu dis, ça part de soi. Il y a un ADN, il y a des valeurs, et au final, on y revient, quoi.
Oui, ça revient beaucoup au
Ouais.
pourquoi de la création de l'entreprise, au final,
Oui.
qui vient souvent du fondateur ou de la fondatrice de l'entreprise, parce que quelle est la raison d'être de cette entreprise? Est-ce qu'elle est là pour une grande ambition? Ça peut être sauver le monde, voilà, je caricature un petit peu,
Ouais,
mais c'est
c'est
vraiment
vrai.
le pourquoi du comment, et c'est ça qui va en découler toutes les actions de l'entreprise, y compris derrière les valeurs de marque et qui va concerner le rebranding.
Donc ça déjà pour trouver sa patte, voilà, astuce déjà pour vous là. Donc déjà de vous inspirer de ce qui vous plaît, de ce qui vous motive, d'aller voir chez les autres ce qui vous parle, ce qui vous anime aussi, ce qui vous met un peu les papillons dans le ventre. Tu sais, on parle souvent de ça. Puis par contre, ceux qui vous trigger ou qui vous mettent un peu mal à l'aise, mais enfin, parce que ça vous nourrit pas, bah, là, vous pouvez vous éloigner, mais c'est pas personnel, hein, c'est juste pour retrouver votre chemin. Et pour finir sur la concurrence, moi, je dis tout le temps, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a des clients. Donc,
Oui,
c'est plutôt une bonne nouvelle.
c'est un indicateur de marché, forcément. Là où il n'y a pas de
Exactement.
concurrent, il y a une possibilité que le marché n'existe pas encore, n'existera peut-être que dans 10 ans. C'est pas forcément un bon indicateur, le fait de ne pas avoir de concurrent.
Ouais, donc ça, merci pour cette précision. Très mindset, hein. Et puis maintenant qu'on a fait un peu le point, donc pour pouvoir comprendre pourquoi c'est important de se différencier, parce qu'on a dit, les clients achètent avec l'émotionnel, hein, on disait avec le pourquoi, les valeurs, etc. Mais nous les premiers, hein, si moi je me remets en position d'acheteur, toi en position d'acheteur et tous ceux qui nous écoutent aussi, bah, c'est un peu les tripes, hein, le feeling qui vont faire qu'on va acheter chez quelqu'un, et surtout dans nos métiers d'accompagnement. Et donc j'ai envie de rebondir sur ça veut dire quoi du coup trouver sa patte. Et du coup Céline, comment on fait pour y arriver? Comment toi tu conseilles tes clients? Vas-y, on va faire une masterclass maintenant. Comment on fait pour réussir à trouver sa patte quand on est un peu perdu?
Alors, moi, j'essaye de donner des exercices. Alors, on dit que tout part de soi, mais des fois, c'est bien plus facile de se voir un peu de l'extérieur. Donc, je conseille en général de s'entourer de quelques personnes de confiance. Si jamais on n'a vraiment aucune idée de quelles sont nos forces, de comment est-ce qu'on peut mettre ça en avant, c'est de demander à nos proches de s'entourer de quelques personnes en qui on a confiance, voilà, qu'on estime, qui nous estime, et qui vont pouvoir nous aider à débroussailler un petit peu tout ça, si voilà, ils vont nous conseiller sur est-ce qu'on est une personne à l'écoute, est-ce qu'on est une personne en qui on peut avoir confiance, est-ce qu'on est une personne qui est dynamique et qui voilà, qui est capable d'apporter de la joie et de rebooster n'importe qui en quelques secondes. Voilà, on a chacun des points forts et qui vont être plus facilement perceptibles par notre entourage que par nous-mêmes. Donc ça peut être une première piste à explorer. Après, il y a tout ce qui est test MBTI, moi que je trouve très intéressant, Ennéagramme aussi, ça dépend de votre sensibilité, le Human Design que je trouve qui peut être une clé intéressante à creuser en matière de personnalité. Après, n'hésitez pas aussi à télécharger des listes de valeurs et de chercher celles qui vous ressemblent le plus et d'en garder peut-être une dizaine ou ce genre de choses et quand vous en avez 10, d'extraire les priorités, en fait. C'est quoi la plus importante parmi ces 10? Donc vous en prenez deux, vous les comparez, vous vous mettez dans les situations, laquelle est la plus importante pour moi entre ces deux-là, et vous faites ça pour chacune. Et en fait, vous allez vous retrouver avec une liste de valeurs qui vont être vraiment vos priorités. Et vous pouvez faire l'exercice à la fois pour vous en tant que personne, mais aussi pour l'entreprise. Il y aura forcément des liens communs, mais pas forcément exactement les mêmes. Donc ça peut être intéressant de faire les deux et de hiérarchiser entre les deux ce qui va être le plus important.
J'aime que tu dises ça, parce que quand on est solo dans sa boîte, ben, on a tendance à mélanger l'entrepreneur avec l'entreprise. Mais ma conviction, c'est que c'est pas le cas. Donc ça reste une conviction très personnelle, hein, que tout le monde n'a pas. Mais même quand on travaille en son nom, alors toi, tu travailles sous le nom Studio Pouce, moi sous le nom Les Intuitifs, donc je constate qu'on a séparé nos personnes. Personnages, enfin nos personnalités de la structure entreprise, il y a des personnes qui vont travailler sous leur nom de famille, tu vois. Mais c'est quand même important, je trouve, et merci de le repréciser, que l'entrepreneur, c'est une personne et que l'entreprise, elle est là aussi pour une mission donnée et qu'elle a aussi ses propres valeurs en dehors de l'entrepreneur qui l'a créée. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme truc,
Oui,
mais c'est vrai.
et puis c'est pas forcément facile, surtout si on met en place une stratégie de personal branding, donc c'est-à-dire qu'on met en avant sa personne, puisque comme tu dis, tu as les intuitives, mais les intuitives, c'est Cécile. Si demain, c'est plus ton visage, c'est quelqu'un d'autre, eh ben tu vas perdre en force, ta marque va perdre en force, en pertinence, en cohérence, parce que les intuitives, c'est Cécile. Cécile n'est pas forcément les intuitives, mais les intuitives,
Exactement.
c'est Cécile.
Et ça, et c'est
Et
ça. Et ça marche dans un sens, un peu moins dans l'autre.
c'est
Mais
ça.
moi, ce que j'ai constaté quand j'ai fait cet exercice des valeurs pour les intuitifs, c'est qu'il y avait quand même des. Alors, je te partage ça, c'était pas prévu, hein, on papote, hein, entre nous. C'est que j'avais, moi, des valeurs qui étaient super fortes au niveau personnel, mais qui n'étaient pas forcément les plus fortes chez les intuitives. Donc, du coup, les rapports de force, entre guillemets, hein, entre les valeurs, comme tu disais, entre les ratios, n'étaient pas les mêmes. Donc, chez les intuitifs, j'ai poussé certains curseurs et chez moi, d'autres. Et tout ça cohabite. Mais tu vois, si je suis en personal branding, ben, je vais utiliser plutôt mes valeurs à moi, comme ce que tu expliquais. Et par contre, si je communique sur les intuitifs, je vais aller mettre en avant les valeurs qui se sont davantage dessinées quand j'ai fait ce travail-là.
Oui, c'est le cas aussi pour moi avec le
Toi?
studio où je sais que l'écologie c'est une valeur personnelle très forte, c'est une conviction personnelle, mais c'est pas forcément ce que je mets en avant dans ma communication pour le studio. Je peux le faire, mais c'est pas la chose sur laquelle j'ai choisi d'axer mon travail.
Par contre, en personal branding, tu pourrais tout à fait prendre la parole sur des sujets qui sont dans ce domaine-là et porter ta voix, tu vois.
Oui, ça, j'hésite pas à partager des choses un petit peu plus personnelles, voilà, des démarches sur le recyclage, sur le circuit court, la consommation, manger végétarien, voilà, ce genre de choses que je vais pouvoir, dont je vais pouvoir parler moi personnellement, mais qui font pas forcément partie de ma culture d'entreprise, on va dire.
Ouais, j'aime ça. Moi, j'ai une valeur. Vous allez rigoler, mais en fait, je me suis rendu compte il y a peu, mais finalement, je le savais depuis toujours que j'ai une valeur travail qui est très forte. C'est. Alors, ça peut paraître un peu, tu sais, le truc aux antipodes, hein, de ce qu'on voit aujourd'hui, mais ça, tu vois, c'est très personnel. Alors que chez les intuitifs, je vais pas forcément la mettre en avant. Et par contre, dans mes échanges avec d'autres entrepreneurs, mais du coup, je fais pas exprès, mais ça fait partie de qui je suis aussi. Je vais plutôt pousser cette valeur-là, enfin, tu vois, la mise en action, le do it, enfin, tu vois, le truc comme ça, quoi. Alors que finalement, pour les intuitives, ça, c'est pas forcément le critère le plus important. Mais voilà, tu vois, c'est marrant, on a tous le truc. Donc ça, c'est très précieux. On n'en parle pas assez, mais merci d'avoir mis le doigt dessus. Donc ça, ben, voilà, on vient d'en parler, comment on fait pour y arriver, hein, c'est tout ce que tu nous as dit, donc les listes de valeurs, allez demander aussi à vos proches vos qualités, alors faites-vous graisser la patte, hein, demandez pas vos défauts, hein, on est d'accord, demandez vos qualités.
Ouais, en général, ces défauts, on les connaît très bien, on n'a pas besoin
Exactement.
De quelqu'un pour nous les rappeler. Après, il y a un autre exercice que je trouve très intéressant, c'est partir de ce qu'on ne veut pas. Quelles sont les personnes qu'on n'aime pas, pourquoi on ne les aime pas, pourquoi on ne veut pas leur ressembler, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas que les autres disent de nous, quels défauts justement ou qualités on n'aimerait pas que les autres nous prêtent, comment est-ce qu'on n'aimerait pas être perçu, avec qui est-ce qu'on n'aimerait pas travailler. Et en fait, de se retrouver avec un anti-soi idéal, ça permet de rediriger la barque, en fait, quand on ne sait pas exactement où on veut aller.
Hyper intéressant. Moi aussi, je fais cet exercice-là. Alors, pas dans ce domaine-là, parce que je ne suis pas dans ton métier, mais du côté des. Pour travailler les offres et tout ce qui est aussi pilier stratégique dans le contenu et dans les offres. Et on part de ce qu'on ne veut pas faire, ou avec qui on ne veut pas travailler. Et finalement, bah, se dessine le client idéal. Et ça, c'est une superbe perche parce que. Justement, on va en parler de ça. Parce que tout ce qu'on vient de dire depuis le début, ça permet de... La finalité, hein, on est d'accord Céline, c'est quand même d'aller connecter à sa communauté idéale. Donc la communauté idéale, c'est la communauté des clients potentiels qui peuvent être accompagnés par nos prestations, nos offres et qui ont besoin de notre solution. Et tout ce qu'on a vu là, ça permet de mettre en place, bah, comme tu l'as dit... le branding, donc qui on est, le grand pourquoi, justement les anti, tout ce qu'on veut pas, ouais. nos valeurs, enfin vraiment ce qui fait notre différence. Donc là, on a appris à trouver sa patte. Et comment est-ce que ça, pour toi, ça permet de connecter avec sa communauté idéale?
Ça va permettre de se différencier et de créer un lien que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire avec votre communauté. Les prospects, les futurs clients, les clients, les gens que vous allez attirer vont venir pour une bonne raison. Souvent, qui ne pourront pas expliquer, qui sera lié à de l'émotionnel. On parle souvent, cerveau rationnel, cerveau émotionnel, je caricature, mais c'est important de savoir que on va parler aux deux types de cerveau quand on va... parler de soi, et souvent c'est l'émotionnel qui va faire en sorte qu'on va connecter. Donc c'est hyper important de partir des émotions, de partir de ce travail de soi, de personnalité, de valeur, donc tout ce qui fait l'essence du branding, pour savoir comment on va orienter sa communication et avoir une communication qui nous ressemble, qui évite qu'on s'épuise à la tâche dans quelque chose qui ne nous ressemble pas. Si on est quelqu'un d'hyper introverti, qu'on n'est pas à l'aise à l'audio ou en vidéo, ça sert à rien de lancer une chaîne YouTube. C'est beaucoup s'épuiser pour au final ne pas connecter avec les bonnes personnes, puisque on veut peut-être parler à d'autres personnes qui sont introverties et qui ont envie d'aller dans une autre direction que celle-ci et de comprendre que c'est possible. Donc ça permet de réadapter à chaque fois aux personnes qu'on veut toucher. Donc il y a un triangle un peu à mettre en place, à visualiser avec l'entreprise, les concurrents, les clients idéaux, et de trouver quel est le point de rencontre entre tout ça, là où vous allez être la personne, comme on dit, océan bleu, océan rouge. Je ne sais pas si c'est une notion avec laquelle tes auditeurs, auditrices sont familières.
Alors ça, c'est une chose qu'on travaille, que je travaille avec mes clients dans l'académie et en séance individuelle. Océan rouge, océan bleu. Donc je pense que toi tu travailles aussi avec, vu que tu cites cette stratégie-là. Donc il y a un volet pour l'entreprise en général, pour quelque part en fait pour le positionnement général de la boîte. Et puis il y a aussi après chaque offre qui vient se positionner sur son océan, parce que chaque offre a son marché et tu peux avoir une offre qui navigue avec des requins. Et comme on a dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des clients. Et tu peux avoir une autre offre, au contraire, qui va aller avoir l'ambition d'aller créer un marché. Donc voilà. Donc, et puis, de façon générale, ton business, il est dans un océan et tu as peut-être une offre qui part dans un autre océan. Mais ça, c'est des choses que je travaille. Alors, je sais pas si les auditeurs sont familiers de ça. En fait, c'est une stratégie qui a été développée par un Américain, mais le nom m'échappe. Le premier livre sorti dessus, c'était en 2004 de mémoire. Donc, ça fait déjà une vingtaine d'années que cette stratégie-là, elle est utilisée. Et en fait, ça vous permet de voir si vous êtes sur un marché où il y a... Vous naviguez tranquillou, pépouze, dans une jolie mer des Caraïbes. Alors, en général, il y a des requins, mais là, du coup, il y en a pas. Tu sais, c'est l'océan bleu, tout est beau, cocotier, machin, et puis t'es pépouze, l'eau, elle est à 30 degrés. Et t'es tout seul dans ton marché. Alors, comme on a dit tout à l'heure, hein, Céline, c'est bien et c'est pas bien, parce que des fois, bah, si t'es tout seul, c'est que t'as pas encore de clients et qu'il va falloir aller leur dire qu'il y a quelque chose à faire. Et là, c'est une stratégie de prendre le leadership, d'aller emmener les gens avec toi dans ton histoire et dans ce que tu as à leur proposer, c'est des marchés d'innovation. Et puis, tu as une autre stratégie qui est d'aller sur l'océan rouge, où là, c'est bienvenue dans le monde des requins. Et puis, il y a plein de poissons. Il y en a plein partout. Et ça se mélange. Et ça, c'est plutôt, du coup, un océan de stratégie de différenciation, comme on disait là. La bonne nouvelle, c'est plutôt d'aller... qu'il y a des clients, ça, c'est sûr. Parce que s'il y a un marché, il y a des clients. S'il y a de la concurrence, il y a des clients. Par contre, là, c'est différenciation plus. Là, oui. Trouver sa patte, ça va être super important pour aller faire la différence.
Oui, c'est pour ça que c'est important d'avoir ses propres stratégies mises en place pour éviter de se retrouver ben voilà, noyé au milieu de concurrents et où tout le monde fait la même chose. Où ces dernières années, on a vu beaucoup de gens dire ben, « il faut être sur Instagram, Instagram, c'est là où je trouve tous mes clients » et du coup, tout le monde s'est rué sur Instagram. Alors que c'était peut-être pas la bonne solution pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'était la bonne solution et ça l'est toujours aujourd'hui, et d'autres pour qui ça le sera peut-être jamais. Donc c'est important de savoir ce qui vous va le mieux.
Et c'est tellement important ce que tu as dit, et ça rebondit par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que n'allez pas faire du YouTube si vous n'êtes pas à l'aise avec YouTube, parce que déjà, enfin, on disait YouTube, mais on n'est pas là pour parler de YouTube, mais quand on dit trouver sa patte, c'est vraiment aussi faire ce qui vibre en nous. Donc, c'est d'aller faire aussi des actions, de prendre action sur des moments où on est complètement aligné avec ce qu'on fait et là où aussi votre communauté idéale va être alignée avec vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, pour aller faire du branding avec de la vidéo, parce que il y a tout un décorum autour de ça aussi, hein. Faut aller assumer, hein, un branding, aller sur YouTube, il y a tout un branding associé. Bref, on va pas faire ça là maintenant, mais voilà. Et si vous êtes déjà pas à l'aise à vous filmer, à parler devant la caméra, et que ça va vous épuiser. Et puis votre cible en face, si ça se trouve, vous allez pas attirer les bonnes personnes, ça va pas être votre communauté idéale. Donc flop, voilà, flop. Exactement. Il y a peut-être autre chose à faire. Et depuis tout à l'heure, n'empêche, moi je me dis, tu sais, on parle vachement mindset quand même.
Et c'est très lié quand même de savoir comment on se comporte, de vraiment faire un gros travail d'introspection au final. Sans introspection, on ne peut pas se différencier tout simplement. Moi je ne pense pas en tout cas.
Parce que tu sais, celles qui nous écoutent, et ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire, mais en fait, on n'a pas encore parlé des couleurs, on n'a pas encore parlé des typos, si ça se trouve, ils sont venus pour ça dans l'épisode. Mais de ton point de vue, ça vient où, ça?
Ça vient un peu plus tard.
C'est
vrai que ça vient un peu en dernière étape, entre guillemets, parce qu'au final, moi, je me rends compte en faisant ce travail que... Ben, pour deux personnes qui vont avoir un brief un petit peu similaire, parce qu'il n'y aura jamais 100% les mêmes choses, 100% la même histoire, etc. Mais là où on va avoir, par exemple, quelques valeurs communes, des émotions communes qui se dégagent, je vais pouvoir proposer peut-être 2, 3, 4 identités visuelles, des couleurs, des typographies qui vont pouvoir correspondre, en fait. Et ça va être le goût personnel de chaque entrepreneur, de l'histoire de chaque entreprise qui va trancher vers un choix ou vers un autre. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et parfois, on peut faire un rebranding alors même que nos valeurs d'entreprise ou notre personnalité n'a pas changé. C'est pas forcément lié à une évolution. Ça peut être se rendre compte qu'on n'a pas mis les bonnes choses en avant, alors que tout était déjà là depuis le départ.
Ça, tu l'observes chez tes clients?
Oui, j'ai beaucoup de rebranding, mine de rien, de gens qui se lancent, qui pensent avoir choisi les bonnes couleurs. Et en fait, le brief de départ n'a pas changé, mais le résultat final, oui. C'est une autre proposition qui se dégage parce que on exprime les choses différemment et puis on affine au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aussi. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur d'essayer. Si pendant 2 ans, vous avez une identité visuelle un petit peu bancale, voilà, un petit peu bricolée, c'est pas très grave. Du moment que ça vous permet de tester, de vous affirmer, de vous confronter à votre marché, de vendre vos services, de vous affirmer en tant qu'entrepreneur. Et la partie rebranding, elle arrivera après, c'est pas très grave. Et c'est une brand designer qui vous le dit. Ne paniquez pas.
Ouais. Et puis 2 ans, ça passe vite. Et puis c'est pas, honnêtement, c'est, enfin, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait, tu conseillerais à quelqu'un, toi, qui se lance de faire tout de suite sa com, enfin, sa com, tout de suite son branding, tu vois, vraiment le truc urgent. Est-ce que c'est vraiment le premier truc à faire?
Non, si on n'a pas fait tout ce travail de
Ouais,
stratégie en
c'est ça.
amont, je pense que c'est un petit peu se précipiter et du coup prendre le risque de devoir tout refaire dans quelques mois. Donc les gens qui sont vraiment aux prémices du projet, qui savent pas trop encore quel est leur client idéal, je leur conseille toujours d'attendre, de prendre le temps de réfléchir et de pas se précipiter en fait dans quelque chose où ils savent pas encore exactement où ils vont. Par contre, quelqu'un qui, même qui est au tout début de son projet, mais qui sait déjà ce qu'il veut vendre exactement comme service, qui a une bonne vision de son offre, de la vision de son entreprise, de son client idéal, de son marché, je lui dirais de se lancer et que c'est le bon timing pour le faire. Par contre, si on n'a pas du tout ne serait-ce qu'une idée de tout ça, il vaut mieux prendre le temps d'y réfléchir avant.
Là, c'est plutôt une question de maturité.
Oui, clairement. Maturité et un petit peu forcément de budget aussi, parce que ça reste voilà, un poste de dépense, d'investissement à réfléchir dans son entreprise. Donc avant d'investir, ça vaut le coup de se pencher sur ce qu'on veut vraiment.
Oui, et de le faire dans le bon sens, hein.
Oui.
On est d'accord. Et la maturité, c'est pas parce qu'on a 2 ans d'entreprise qu'on va être plus mature qu'un entrepreneur qui démarre. Tu l'as très bien expliqué. C'est vraiment est-ce qu'on a fait tout ce travail en amont de bien se connaître, de connaître son pourquoi, travailler sur ses valeurs, sur nos différences, sur nos, enfin voilà, sur tout ce qui fait qui on est et qui est notre entreprise.
Oui,
Et si on fait pas ce travail-là, parce
totalement.
qu'il y en a qui travaillent depuis des années mais qui n'ont jamais fait ce travail-là, donc
Oui. C'est
voilà.
fréquent de naviguer
Ouais.
à vue comme ça. Et on retrouve beaucoup quand on fait des formations après, des coachings. Et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul en fait à s'être lancé un peu, je vais pas dire sur un coup de tête, mais sans trop penser à tout ça. Et puis, tant que ça roule, ça roule. Et après, on se rend compte peut-être avec le temps qu'on n'est pas totalement aligné, qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme on aurait souhaité. Et c'est là qu'on met le doigt dans l'engrenage et qu'on se dit, comment je fais pour me différencier maintenant? J'ai envie d'autre chose.
Ouais, je suis complètement d'accord avec tout ça aussi. Je pense que il y a un process, enfin un process, ouais, il y a un chemin par lequel on doit passer. Ça vous empêche pas, en même temps, si vous avez aussi le budget à dédier à ça, si vous êtes un peu perdu, par exemple, vous allez vers Céline, qui pourra faire le travail avec vous aussi de cette introspection, tout ça, dès le début aussi. Ça permet d'aller aussi plus vite, tu vois. Mais ça dépend d'où on en est. Et quelles sont les ambitions? Donc, mais je pense qu'on est d'accord pour dire faut pas griller les étapes, quoi. Parce que de toute façon, sinon on y revient.
Totalement.
C'est ça. Justement, pour faire cette mise en pratique avec quelques petits tips là au niveau d'introspection pour identifier sa différence, alors tu nous en as déjà donné beaucoup. Est-ce qu'il y aurait deux, trois petites choses qu'on pourrait encore confier aux auditeurs de la pépite là pour pour pouvoir aller travailler plus en profondeur cette connaissance de soi avant d'aller travailler son branding.
Oui, moi j'ai un outil que j'aime bien utiliser, que j'ai déjà utilisé pour moi et que je vais utiliser à mes clientes selon les besoins. Ce serait d'identifier peut-être 5 ou 10 personnes qui vous inspirent. Je prends un nombre volontairement un petit peu élevé parce que plus on a d'éléments, plus c'est facile après de se comprendre aussi. Donc de trouver voilà 5-10 personnes qui on suit avec plaisir et qui nous inspirent. Qu'on peut appeler un peu des rôles modèles. Donc, c'est des gens dont on va pouvoir détricoter un petit peu ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Donc, leur coller un adjectif, en fait. Pourquoi est-ce que cette personne m'inspire? Bah, parce qu'elle motive tout le monde, parce qu'elle est toujours de bonne humeur, parce qu'elle me rassure. Et ensuite, de prendre tous ces adjectifs qu'on a identifiés et de se demander bah, comment est-ce que moi, je peux retranscrire ça dans ma propre entreprise. Comment est-ce que je peux être rassurante pour les autres? Comment est-ce que je peux inspirer confiance? Et on va débloquer comme ça plein d'idées. Ça peut être bah, mettre en place un customer care, ça peut être mettre en place plus de relationnel client, une FAQ sur son site, de faire des story facecam. Il y a plein de réponses, il n'y a pas une bonne réponse à tout ça. Mais plus vous aurez d'idées, plus vous aurez de pistes en fait pour faire retranscrire, pour retranscrire en fait ces morceaux de personnalité que vous voulez mettre en avant.
Ça, c'est top, j'ai jamais fait ça. C'est trop bien.
Ouais, c'est trop bien.
Et en plus, ça doit donner bien confiance, tu vois. Enfin, il y a un effet miroir assez fort, je pense, qui doit s'opérer.
Oui,
Et de se dire qu'on est capable aussi de faire la même chose. Ouais, cool.
parce qu'il y a des choses qu'on n'identifie pas forcément. On se dit, bah, j'adore le contenu de cette personne, mais sans vraiment se poser de la question. Voilà, réponse émotionnelle, un peu instinctive. Et puis, une fois qu'on détricote, on se rend compte que, bah, il y a des choses qu'on peut nous-mêmes mettre en avant et appliquer. Et voilà, ça permet de se sentir plus à l'aise sur certains points et de se dire, ben voilà, au final, moi aussi, je suis capable de faire ceci, moi aussi, je suis capable de faire cela, et en plus, je peux le faire à ma propre manière.
Excellent, ça c'est un super exercice, merci beaucoup. T'en
Ah,
avais un autre sous le coude?
j'en ai un autre sous le coude. C'est toujours de réfléchir en pourquoi et comment. Par exemple, je veux inspirer de la motivation aux gens, pourquoi? Parce que je pense qu'on a besoin de plus de joie dans le monde, par exemple. Et comment? Ça peut être en utilisant des couleurs plus punchy dans sa communication, puisqu'on n'a pas encore parlé des couleurs dans la communication. Mais ça peut être en faisant des petites notes vocales tous les matins pour booster les gens. Ça peut être voilà, il y a plein de façons d'inspirer les autres et vous allez comme ça pouvoir faire des questions. Pourquoi? Puis comment? Et trouver la bonne façon de faire pour vous.
Est-ce que tu conseilles là quand même, c'est très actionnable. Hein. On n'est pas sur des trucs trop loin, c'est vraiment du terre à terre. Quand tu disais, tu vois, tu fais des petits vocaux ou tu mets du peps dans la com, enfin genre des couleurs vives et tout, on est tout de suite dans l'action. Moi, je pense à certaines personnes de ma communauté qui, mais je le dis avec énormément d'affection parce que moi aussi j'ai eu ces travers-là il y a une dizaine d'années. C'est de dire, je veux permettre aux femmes de révéler leur potentiel. Et je le dis avec toute l'affection du monde, parce que moi aussi, je l'ai fait. C'est pas assez précis, moi, je trouve. Et donc, justement, je trouve que ce que tu conseilles, c'est, OK, tu veux permettre aux femmes de révéler leur potentiel, mais pourquoi et comment concrètement au quotidien tu le fais? C'est ça.
C'est ça.
Super actionnable. Top.
C'est ça. Mais dans la même veine, j'aime bien pouvoir, comme tu dis, aider des personnes à se révéler, c'est quelque chose d'un peu sens large, voilà, sans venir totalement aux exercices smart pour la planification d'objectifs, mais ça s'en rapproche un petit peu. C'est j'ai un grand rêve, mais changer la vie d'un million de femmes pour qu'elles apprennent à se révéler, ça reste flou. Donc en fait, on part de ce grand rêve et comment est-ce qu'on peut le découper en toutes petites étapes qui vont me rapprocher petit à petit. Ça va être ben, accompagner une personne à changer sa vie en l'aidant à créer son entreprise par exemple. Ensuite, comment est-ce que je peux faire? Ben, je peux créer un blog en donnant des conseils. Puis après, je peux aller un petit peu plus loin en organisant une conférence avec des personnes qui ont envie de changer leur vie. Et petit à petit, on va, au lieu de se retrouver devant une montagne gigantesque à gravir, on va se retrouver devant un escalier où on n'a plus qu'à monter une première marche, puis une deuxième, puis une troisième, et on profite plus du voyage.
Excellent. Je suis tellement en accord avec tout ça. Excellent. Je suis contente que ce message passe aujourd'hui. Ça me fait vraiment du bien de partager ça sur le podcast. Je te suis complètement là-dessus, Céline. Et justement, le dernier point là qu'on va adresser ensemble pour les auditeurs, c'est comment on utilise tout ça, tout ce travail-là pour mieux communiquer au quotidien. Alors là, tu viens déjà de nous donner des éléments de réponse, hein, de se mettre dans l'action, etc. Concrètement, tout le chemin qu'on a fait là, tout le parcours, ça sert à quoi et comment on s'en sert?
Alors, ça sert à identifier ce qui vous convient, ne vous convient pas, en termes de stratégie, en termes de communication, comme on disait. Faites les choses avec lesquelles vous vous sentez à l'aise, qui vous ressemblent et qui vont attirer les personnes qui vous ressemblent. Ensuite, de toujours vous demander quand vous créez quelque chose, de façon à ce que y ait toujours une émotion qui se dégage, une valeur, quelque chose de fort, une idée forte qui se dégage de ça, que ça fasse réagir les gens. N'ayez pas peur d'être trop visible, ayez plutôt peur d'être invisible. Faites des choses qui vont faire réagir les autres, qui vont leur provoquer des émotions.
Excellent. Excellent. Et encore une fois, on n'a pas parlé des couleurs, on n'a pas parlé des typos. Je vous entends un petit peu derrière là, vos écouteurs, vous vous dites, ouais, les filles, elles parlent de branding, mais on n'est pas en train de parler des couleurs et des typos. La réalité, c'est que c'est... Et en fait, il faut cette fondation-là pour pouvoir aller après vers justement cette stratégie de d'image, en fait. Est-ce que quand même, juste pour boucler la boucle, pour ceux qui se posent quand même quelques questions, alors je sais que c'était pas trop prévu à ce qu'on s'était dit dans notre échange, mais j'aime bien aussi ça, est-ce que tu aurais quand même un ultime conseil vis-à-vis par exemple, quelqu'un qui fait son logo parce que ça, ah bah, il prend ce logo-là parce qu'il aime bien, ça lui fait plaisir. Alors on a déjà un peu répondu à ça dans l'épisode, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais malgré tout, il y en a, tu sais, qui insistent. Mais moi aussi, je suis passée par là. Donc, je le dis, je plaide coupable. Au début, quand je me suis installée il y a 10 ans, c'était le truc. Je voulais que tout soit déjà fait avant même que j'ai commencé à avoir mon premier client. Ah, c'est dur hein, de déconstruire ça. Comment on fait pour pas se laisser embarquer là-dedans? Et si on veut quand même quelque chose, qu'est-ce que tu conseilles si on doit commencer à bricoler un truc tout seul?
Alors, je comprends tout à fait parce que c'est important pour moi aussi. L'esthétisme, ça, c'est forcément quelque chose d'important. Et souvent, j'ai des clientes qui ont envie de se sentir fières de leur entreprise, fières de leur marque. Et voilà, de ressentir ce sentiment de « je donne mes cartes de visite, j'ai envie qu'on me dise « waouh, c'est trop beau ce que tu as fait ».
C'est ça, donc... t'as envie, tu sais, t'es trop fière. Puis ça matérialise la création d'une entreprise et tout ça, enfin...
C'est ça, ça rend les choses très concrètes, effectivement. Donc, je comprends ce besoin d'aller vers ça. Donc, moi, je vous conseillerais de faire simple dans un premier temps. Aller vers des choses qui vous plaisent, qui vous attirent. Essayez peut-être de trouver des templates. Il y a plein de ressources sur Internet où vous allez avoir des visuels qui sont déjà un petit peu préfaits et où vous allez pouvoir rajouter votre touche. Mais où ça respectera quand même quelques codes, on va dire. C'est important que les visuels respirent, c'est important de ne pas avoir un logo trop chargé, de ne pas avoir trop de couleurs, de laisser du blanc, de l'espace visuel. Moi, je suis un petit peu adepte des designs minimalistes. C'est vrai que souvent, les entrepreneurs qui se lancent et qui n'ont pas de compétences particulières en graphisme ont tendance à trop en faire pour faire passer leur message.
C'est le sapin de Noël. Moi qui suis syndrome du sapin de Noël.
L'assise mort.
C'est ça.
Si vous avez envie de communiquer avec un logo, si vous avez besoin de matérialiser visuellement votre identité alors que vous n'êtes pas encore prêt à faire ce travail avec un ou une graphiste, faites les choses simples. Vous prenez une typo qui vous plaît, qui est lisible, qui vous ressemble. Vous faites un logo tout simple, sans forcément de pictogramme. Juste une typo, 3-4 couleurs, des neutres. Une couleur forte, et puis vous essayez de composer des visuels harmonieux et simples. Et je cite cette phrase parce que Antoine de Saint-Exupéry l'a très bien dit, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. On n'en fait pas trop.
Excellent. Et j'aime tellement son texte. Ok, donc tu conseilles d'aller sur un logo typo
Oui.
et puis trois couleurs, dont une seule dominante, et après le reste vraiment très sobre, très neutre. On évite de rajouter des trucs par-ci par-là. Et si on veut rajouter, on fait appel à un pro. De toute
Oui.
façon, c'est en attendant de faire appel à un pro. On est bien d'accord.
Tout à fait. Tout à fait.
qui va savoir après mettre en musique toute la stratégie dont on a parlé, toutes les fondations. Enfin voilà, ça va vous permettre d'expérimenter en attendant de pouvoir travailler avec un professionnel. Et
Oui, c'est ça évite de faire tout ce qui est technique aussi, d'avoir quelqu'un qui va nous guider sur la création des visuels pour se démarquer un petit peu. Parce que, alors, je ne vais pas critiquer Canva parce que c'est super, ça permet à plein de gens de communiquer là où ils n'avaient pas forcément les moyens de le faire avant que ça existe, où les outils étaient réservés aux pros. Donc, c'est génial parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer, mais tout le monde finit par utiliser les mêmes templates et on sait exactement ce qui a été créé avec Canva et ce qui n'a pas été créé avec Canva. Et on perd ce côté différenciant, là où vous allez pouvoir vous démarquer grâce aux outils qu'on a développés tout au long du podcast.
Top, top, top. Alors pour finir, Céline, toi, tu t'accompagnes comment tes clients si on veut te contacter, déjà, on te trouve où et qu'est-ce qu'on peut te demander si on a besoin d'aide?
Alors moi, on me trouve sur mon site internet, sur studio-pouce.fr, sur Instagram, Studio Pouce aussi. Je poste pas toujours sur Instagram, mais par contre, j'adore échanger en DM. Donc si vous avez des questions par rapport à l'épisode, je serais ravie d'en discuter avec les personnes qui le souhaitent. Et du coup, moi, en termes d'accompagnement, donc comme ce qu'on a un petit peu développé, donc je fonctionne en appel découvert pour comprendre un petit peu les besoins, les problématiques, voir si je peux aider les personnes, si je suis la bonne personne pour accompagner, si le feeling passe aussi, c'est hyper important parce que le fait de travailler énormément en introspection, il faut qu'on se sente parfaitement en confiance et c'est compliqué. Donc c'est bien de faire un appel découvert pour un premier échange. Et ensuite, donc on travaille toute la stratégie de marque avec des outils d'introspection, les archétypes de marque, des outils de communication. Le but, c'est que vous sachiez exactement comment mettre en valeur votre personnalité, votre entreprise, du personal branding pour les personnes qui souhaitent se mettre en avant aussi, et repartir avec une identité visuelle sur mesure, totalement personnalisée, et qu'on sait utiliser ensuite dans sa communication.
Et sur tout type de com, on est d'accord. Toi, tu fais aussi
Oui.
les
Oui,
tout le panel.
j'accompagne aussi sur les templates Instagram pour celles et ceux qui veulent je me mélange mes mots
Mais
pour les
on ne sait
personnes
plus, il y a
qui
tellement de
veulent
réseaux sociaux, on ne sait plus.
pour les personnes qui ont leurs clients idéaux sur Instagram. Du coup, je les accompagne aussi dans la création de templates, de piliers de contenu. On fait vraiment toute la stratégie qu'on décortique ensemble. Ou la création de sites internet aussi. Je trouve que c'est un gros moyen de réassurance et de confiance avec ses clients. Donc, je fais également de la création de sites internet.
Je vous conseille vraiment d'aller voir très chaudement ce que fait Céline parce que c'est vraiment magnifique. Je suis très fan de ton univers.
Merci,
J'aime
Cécile.
beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, c'est très sincère. Bah écoutez, les amis, j'espère que ça vous a plu cet épisode. En tout cas, moi, je repars avec plein de bonnes choses à essayer aussi, plein de techniques que je connaissais pas. Donc merci beaucoup, Céline, pour tous ces précieux partages. J'espère que tu t'es plu avec nous.
Oui, c'était génial. Et puis, avec plaisir, j'espère que ces petites astuces, ces exercices pourront aider pas mal de personnes à creuser et puis à tirer avantage de leur personnalité.
Merci beaucoup. Donc je mets tous les liens pour te contacter dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à aller contacter Céline en direct hein, sur Insta, en DM. Elle vous répondra. Et puis bah, je te remercie Céline et puis je te dis à très bientôt. Et très chers auditeurs et auditrices, à très bientôt aussi. Bye
Merci,
bye.
à très vite.